Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Opération Panthère Noire contre les Kuluna, quels sont les résultats attendus? On en parle aujourd'hui avec le professeur Norbert Yambayamba, directeur des cabinets du ministre de l'Intérieur. Des questions et préoccupations par rapport à cette opération, appelez déjà au 099 706 9941 pour participer. Comment prévenir les conflits entre les hommes et la faune sauvage? Professeur Amunda Ladrazo, expert en faune sauvage, sera l'invité d'Okapi Service à partir de 11h05 de Kinshasa. Polydor Bansunga assure la mise en onde de Tati Mapoukou, coordonne et réalise cette émission que présente aujourd'hui Daniel Kachama. Pour participer, nous le rappelons, appelez le standard est déjà ouvert, composez les 099 706 9941, écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, opération Panthère Noire contre les Kuluna, quels sont les résultats attendus? Eh bien, on assiste depuis quelque temps à l'escalade du banditisme urbain appelé Kuluna dans plusieurs quartiers de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Pour combattre cela, le ministère de l'Intérieur vient de lancer l'opération Panthère Noire pilotée par la police nationale congolaise. Déjà, une centaine de jeunes Kuluna ont été arrêtés et présentés le 1er avril dernier par la police nationale. Il s'agit là des premiers résultats de cette opération. Cette nouvelle campagne de la police contre le phénomène Kuluna est accueillie avec scepticisme dans les cercles de la société civile car des initiatives similaires n'ont pas donné de bons résultats. Faute des ressources, faute des moyens, eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité, professeur Norbert Yambayamba, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Nous parlons aujourd'hui de l'opération Panthère Noire. Alors, dites-nous, professeur, qu'est-ce qui a motivé le lancement de cette opération et pourquoi cette dénomination?
Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérêt et Sécurité, vous dire un peu les stratégies qui ont été prises par rapport à cette opération. Certainement que vous savez, c'est depuis 30 ans qu'on a assisté à une sorte de déliquescence de l'État. Les parents n'ont plus pris comme se doit les responsabilités. Beaucoup d'enfants, de jeunes, aujourd'hui même des intellectuels sont sur la place publique, sont sur le terrain, sans travail, sans quoi, etc. Et donc on se retrouve avec pratiquement une armée de chômeurs sur le terrain, mais dangereuse. Et cela a véritablement augmenté le banditisme, la criminalité, etc. Certainement que par le passé, on a tenté de travailler en mettant en place l'opération Likofi, l'opération coup de pointe. Oui, ça a donné des résultats, mais il y a eu pas mal de dérapages. Et donc, aujourd'hui, il faut humaniser la chose, mais il faut être efficace et efficient. Raison pour laquelle le vice-premier ministre, après conseil de ministre, a opté pour l'opération Panthère Noire. Panthère Noire, c'est vrai que si hier, à des moments, on entendait que les actes soient posés pour que finalement la police puisse suivre le fait. Aujourd'hui, il faut prendre des dispositions de telle sorte que il faut aller vers, il faut aller de manière anticipative pour prendre des contacts avec ceux qui sont censés identifier les gens dans les différents quartiers, ceux qui sont censés avoir l'information nécessaire pour savoir que telle ou telle personne est dangereuse ou pas, etc. Et donc la police travaille dans le sens de collaborer avec la population, dans le sens de collaborer avec les autorités territoriales, de manière à connaître les différents criminels, les différents bandits, leur endroit, etc. Et on peut aller à la recherche de ces gens pour diminuer ou dégonfler cette insécurité qui a élu véritablement domicile. Donc, la motivation, c'est qu'il y a trop de banditisme.
Oui,
de criminalité sur le terrain. Vous avez toujours dit, la population insistait. Mais vraiment, ne pouvait pas rester bras croisés. Il faut anticiper, et l'anticipation passe par cette opération Panthère Noire. Voilà.
Bien. Alors vous dites que vous allez changer d'approche. Maintenant, vous irez dans les communautés pour avoir des informations. Concrètement, comment ça va se passer? Allô, monsieur Norbert?
Oui.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez avec l'opération Panthère Noire, vous allez changer d'approche, vous irez vers la communauté, etc. Vous allez approcher les Koulouns. Comment ça va se passer concrètement? Je pense qu'on a quelques soucis avec la ligne téléphonique.
Oui, maintenant je vous écoute.
Oui, voilà, il est là. Je disais tout à l'heure que vous dites qu'avec l'opération Panthère Noire, la police nationale va changer d'approche. Vous allez maintenant aller vers les communautés, tout ça, pour avoir des informations. Concrètement, comment ça va se dérouler?
Non, c'est un problème d'une stratégie. Une stratégie de répartition des rôles, une stratégie de circulation de l'information. Si hier, par le passé, il y avait la police, certainement, qui devait faire ce travail-là. Aujourd'hui, dans le cadre de la gouvernance sécuritaire, on a besoin de travailler avec la population, avec les autorités locales. Et ces autorités locales se retrouvent dans des communes, dans des quartiers, etc., où se déroule naturellement ce banditisme ou cette criminalité. Et donc, avec la collaboration, naturellement, de la population ou des corps intermédiaires, et donc, on a l'information pour savoir qu'à tel endroit, il y a tel monsieur ou tel groupe qui opère. Et on fait les investigations et on descend sur le lieu de manière à pouvoir identifier ces gens et les arrêter tout à fait cessantes. À la différence de la fois passée où il y a un problème qui se pose. Et sur base de ces problèmes, on descend et on identifie les auteurs des actes contrôlés. Voilà. Donc, cette fois-ci, de manière permanente et récurrente, on va être à la recherche, mais avec la collaboration, n'est-ce pas, des autorités et de la population qui sont censées mieux maîtriser ceux qui sont dans des criminels qui sont dans les quartiers ou qui sont dans les communes, etc. Voilà un peu l'approche. Cette approche permet de maintenir la paix, la sécurité de manière permanente. Pourquoi? Parce que on est tout le temps à la recherche. Certainement, quelqu'un dira, il y a un problème de moyens, etc. Mais écoute, le gouvernement, comme c'est une priorité de priorité, je pense, mettra les moyens, n'est-ce pas, pour que finalement cela se réalise.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Wesley Louboya depuis Kananga. Bonjour Wesley.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre préoccupation?
Merci pour la parole m'octroyée. Je suis d'abord content pour cette réforme qui aujourd'hui est en train d'être prise par l'État pour lutter contre les criminalités qui basent son plein dans la jeunesse. Mais d'après moi, ma vision, je trouve que la procédure est mal entamée parce que lui-même, l'évité, a reconnu certaines opérations déjà lancées, mais qui n'ont pas abouti à des résultats palpables et concrets. Alors, la première des choses qu'il fallait savoir, c'est que qu'est-ce qui pousse les jeunes ou la plupart des gens à être criminels? C'est d'abord le chômage. L'État devrait commencer d'abord par créer les emplois, engager les jeunes, les employés. Parce que quand quelqu'un est employé, quand quelqu'un travaille, il n'a pas le temps de commettre les bévues. Mais aujourd'hui, vous voyez le taux de chômage dans ce pays, c'est tellement déplorable. Et aujourd'hui, ces jeunes gens-là, peut-être parmi eux, il y a des cadres, il y a des gens qui ont étudié, qui ont des qualifications. Mais parce qu'ils finissent les études, ils se retrouvent dans le monde des chômeurs. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être criminels, c'est pour qu'ils vivent. Mais l'État devrait commencer d'abord par créer les emplois, engager les jeunes. Et de cette façon-là, on atténuerait, parce que je ne dirais pas que la criminalité sera plutôt zéro au Congo, mais on atténuerait les taux de cette criminalité. J'ai une référence simple. Vous savez, le chef de l'État a pu organiser les services nationaux ici dans les soucis d'engager les Kuluna et les chefs que nous avons toujours dans ce pays. Mais lorsque ces gens ont été engagés à Kanyamakasise, ici, à Kananga précisément, à Katwambi, mais ils ont seulement encore beaucoup de désordres. Ce sont eux qui travaillaient, ce sont eux qui volaient encore, et a fortiori, qui violaient les femmes d'autrui et les enfants d'autrui. Est-ce que la procédure était bonne? Non. Pour moi, je demanderais à l'État de pouvoir peut-être tabler sur la création des emplois, qu'on crée les emplois dans ce pays. Nous en avons marre. Le chômage bien, est à merci. La base de cette voilà. criminalité. Je dis merci beaucoup.
Merci Wesley. Justin Koulou de Funguru, mais bonjour.
Bonjour, monsieur Jobi, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'opération Panthère Noire?
En tout cas, il y a à boire et à manger sur ce sujet. Je vous félicite beaucoup de le faire passer comme sujet aujourd'hui. En tout cas, je m'inscris en faux de dire que la criminalité s'élève, prend l'ascenseur, puisque c'est la pauvreté qui pousse ces jeunes gens à se lancer dans la criminalité. Ça, c'est faux. Depuis l'indépendance de notre pays, le pays est toujours pauvre. Et il y a des coins et des tribus qui ne se lancent pas à être des criminels. Si je peux donner parmi des réponses avant de faire des petits commentaires, c'est l'incapacité des services de sécurité tout court qui échoue à bien réglementer ces inciviques. Si nous prenons le lancement de la Panthère, je sais pas, opération Panthère par le Premier ministre, est-ce qu'il a ajouté d'autres méthodes ou d'autres tactiques?
Par le ministre de l'Intérieur.
Oui, est-ce qu'il a ajouté des techniques ou ça? Ce sont les mêmes policiers, les mêmes militaires, les mêmes ANR, les mêmes bureaux de... Ici, chez nous aussi, à Funguru, mais c'est une question que je pose à l'invité. Qu'est-ce qu'il fait per civil? On a ajouté aussi dans les services de sécurité les pères civils, mais on arrive toujours à donner l'échec à la sécurité. La vie humaine est sacrée.
Justin, si. quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Oui, nous allons rapidement. La vie humaine est sacrée. Quelles sont les techniques qu'ils ont montées en marche pour lutter efficacement contre ces criminalités?
Merci beaucoup.
Ensuite, oui. Quelles sont les mesures de correction prévues par ces gens, puisqu'on ne va pas les exécuter? Ils seront gardés en prison, et en prison, ils vont toujours se transformer en criminels, puisqu'ils commenceront à demander les gens, le venant, que non, je suis le chef de prison, donnez ceci. On tracasse encore le venant. En tout cas, j'ai des méthodes sûres. J'ai demandé même aux gens de ma confrérie ici, j'ai des techniques à donner pour que ces gens...
Merci beaucoup. Merci Justin. Voilà, vous avez des techniques à partager. Achille, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire ou quelle est votre préoccupation par rapport à l'opération Panthère Noire?
Bon, nous saluons cette opération parce que quand on envisage quand même des mécanismes pour lutter le quoi, le banditisme, c'est toujours important de saluer cette opération. Mais hein, l'inquiétude est que nous avons vu déjà, comme les autres l'ont dit, on a vu l'opération Kanyamaka CC, on a vu bon, d'autres opérations. Donc ça apparaît, après quelques temps, ça disparaît. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on parle de l'opération Panthère Noire. Donc on va parler, peut-être pour un mois, deux mois, après trois mois, on ne va plus encore entendre ça. Bon, j'ai une question. La question est de savoir, après les avoir repérés, où est-ce qu'ils vont les quoi, le mettre. Et j'ai aussi une proposition. Nous avons vu à l'entrée de Musée Kabila, demander aux Louchois, les Louchois qui savent très bien, il y avait un bandit criminel qui était dénommé, il s'appelait Bébé Kassanda. Il était vraiment, même un petit enfant de 5 ans, il pouvait connaître ces messieurs-là. Qu'est-ce qu'ils étaient passés? Et ce monsieur a été arrêté, après avoir été arrêté, bon, quelques temps après, il est libéré. Mais juste à l'entrée du musée Kabila, ce monsieur-là a été arrêté, il était pendu. Jusqu'quand il avait été pendu, on n'avait plus jamais entendu parler de quoi, du banditisme. Il avait été pendu au camp Vang. Ceux qui sont Lubumbashi savent très bien cette histoire. Donc, c'est supposé que même les Kulunas là, qui font des dégâts, ils ont leur leader. Donc, quand vous attrapez seulement un de leurs leaders, vous les pendez en place publique, je pense que ça va diminuer. C'est parmi de quoi, les mesures qu'il faut appliquer, parce que trop, c'est trop. Parce qu'un bandit qui vient avec une machette, et vous voulez qu'on fasse quoi? Même la Bible dit, celui qui va tuer par machette, lui aussi doit mourir normalement par ces mêmes sorts-là.
Merci Achille. Voilà, il propose qu'on attrape les leaders et puis qu'on puisse les pendre. Célestin, vous êtes à Kananga, bonjour. Voilà, et on va les relancer tout à l'heure. Bien, Monsieur Norbert Yambayamba, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. À vous la parole.
Merci beaucoup pour toutes ces interventions pertinentes. L'essentiel pour nous tous, c'est de vouloir construire la sécurité dans notre pays sans laquelle le développement est impossible, en fait. Cependant, je voudrais quand même dire à tous les intervenants, à tous les auditeurs, que la question, n'est-ce pas, de banditisme urbain ou de criminalité, c'est une question complexe. On ne donne jamais des solutions simples à des problèmes complexes, c'est très important. Il faut donc chercher pour un problème plusieurs solutions qui entrent en ligne de compte. Je suis quand même très heureux que le premier intervenant de Kananga reconnu. Pourquoi on devient criminel? On devient criminel parce qu'on n'a pas été encadré. D'abord en commençant par sa propre famille, et que la famille n'a pas encadré simplement parce que la situation n'est pas bonne. Ou soit quand on termine, ou on est garçon, on ne peut pas aller à l'école simplement parce qu'on n'a pas de moyens, etc. C'est cette complexité, en fait, ces problèmes complexes qui font qu'aujourd'hui, on a toute une armée, n'est-ce pas, de bandits sur le marché. Et le gouvernement de la République, au travers le ministère de l'Intérieur et Sécurité, avait pris un certain nombre de dispositions par le passé. L'opération qui a existé, l'ICOFI, pour coup de pointe, etc., ça sont des opérations qui ont existé, qui étaient ponctuelles. Mais vous savez, le gouvernement n'a pas arrêté de pouvoir mettre en place des centres de rééducation, des centres de socialisation, des centres de réinsertion, centres de réintégration. Quelqu'un a cité Kanyamaka CC. Et avec Kanyamaka CC, certes, avec des structures bien connues, capacité d'accueil bien connue, etc. Et quelqu'un ne me dira pas que tous ces gens qui sont allés à Kanyamaka CC ont échoué. Ah non! Il y en a ceux qui ont étudié l'agriculture, il y en a ceux qui se sont spécialisés en maçonnerie, en menuiserie, etc. Certainement que la capacité d'accueil est limitée. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des bandits, chaque jour, il y a des criminels, il faut les recruter, il faut les arrêter, il faut les envoyer. Mais on va les encadrer comment? C'est ça justement, c'est comme ça qu'on a dit, il fallait 10 ensemble du territoire national. Et vous savez, quelqu'un parlait de Kananga, il y a déjà un centre. Et ici dans le Congo central, il y en a. Et il faut réunir pour que cela se retrouve dans toutes les provinces. La particularité pour notre gouvernement et à travers notre ministère aujourd'hui, c'est que au lieu que nous ayons essentiellement Kadiaba, Kassessé, etc., Congo central, que nous puissions aussi identifier des confessions religieuses qui s'occupent de cette question. Et la perspective, c'est d'aller mettre en route des protocoles d'accord avec ces ONG, etc. Par le passé, déjà en 2000, il y avait 22 000 enfants de la RI, ce qu'on appelait des enfants en situation difficile. Mais ils étaient encadrés par les ONG. Mais l'âge moyen à cette époque, c'était 9 ans. Regardez, lorsque vous quittez 2000, aujourd'hui à 2024, l'enfant qui avait 9 ans, aujourd'hui, doit avoir plus de 20 ans. Vous voyez ? Donc, c'est un problème réel. Alors maintenant, le gouvernement n'a pas arrêté ça. Il dit, OK, des opérations, quand on parle d'opérations, c'est ponctuel, c'est conjoncturel. Mais en dehors de ces opérations-là, il y a d'autres mécanismes. Aujourd'hui, hier, on n'avait pas une collaboration avec la population. Dans chaque commune, dans chaque secteur ou chefferie, dans chaque province, ou même à l'échelle nationale, on a mis en place une certaine gouvernance sécuritaire. La gouvernance sécuritaire suppose qu'il y a un cadre où les services de sécurité se retrouvent, y compris la population représentée par des corps intermédiaires. Et c'est là que la circulation de l'information se réalise. C'est là que, effectivement, les méthodes et l'encadrement se pensent. Vous êtes, par exemple, dans la commune de Kimansegué. Dans cette commune de Kimansegué, il y a des services de sécurité. Sous le pilotage, sous la direction, par exemple, du bourgmestre. Mais il y a aussi, outre les services de sécurité, il y a la population, il y a des ONG spécialisées sur la question. Ils se retrouvent. On associe même les chefs de quartier. Parce qu'au niveau des quartiers, il y a aussi des chefs de riz. Et au niveau des riz, il y a des familles. On peut identifier que dans tel ou tel endroit, il y a telle personne qui est entrée. Et est-ce qu'il habite dans le quartier? Est-ce qu'il vient d'arriver? Et on essaie d'investiguer et on amène les informations nécessaires, naturellement, aux services de police, aux services de sécurité, qui essaient d'observer et d'avoir véritablement des éléments concluants par rapport à la personne. Et on met la main sur la personne. Alors, maintenant, au-delà de ce mécanisme qui est mis en place, et il y a aussi le fait que le gouvernement est en train de travailler. Le gouvernement travaille.
Oui, monsieur Norbert, vous allez mettre la main sur ces... Quand vous mettez la main sur eux, qu'est-ce qui va arriver après? Quelqu'un a proposé, voilà, peut-être il faut avoir des mesures de correction ou un programme de rééducation pour qu'il soit utile à la société. Comment comptez-vous le faire?
Oui, c'est justement ça ce que nous disons, que lorsqu'on met la main sur la personne, si dans l'hypothèse le criminel s'est révélé criminel, il a tué, il y a des procédures. Par le passé, on pouvait bien, corriger brutalement, etc. La société fonctionne dans une répartition de rôles. Ceux qui sont censés véritablement attester la responsabilité de chacun, ce sont les cours et tribunaux. Et il faut donc, lorsque on met la main sur telle ou telle personne, etc., il faut lui confier aux cours et tribunaux qui établissent ses responsabilités. Parce qu'en réalité, chacun est censé être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prononcée. Et donc, d'abord, les cours et tribunaux doivent véritablement décider sur la question et doivent sanctionner en fonction de barèmes de sanctions tels qu'établis par la loi. Et puis bon, il y a aussi des gens qui sont des bandits, faute d'éducation. Ces gens-là, outre l'arrestation, mais il faut aussi les aider dans des prisons à organiser, n'est-ce pas, des travaux de réinsertion. C'est complexe et tout cela nécessite véritablement des moyens. Que ce soit les parents qui ne sont pas en mesure d'encadrer les enfants, il faut véritablement donner du travail et que le travail soit véritablement soit payant, etc. Et tout ça, il faut réunir. Nous avons un budget à peine de 16 milliards de dollars. Nous sommes 110 millions de personnes. Chaque année, on produit des diplômés. Chaque année, il y a une déperdition scolaire on l'a remarqué par là, il y a 15 ans.
Oui. Hein, un instant, professeur. Un instant, professeur. Oui. On va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'opération Panthère Noire contre les Kuluna. Quels sont les résultats attendus? Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Célestin nous appelle des Kananga et Charles des Lubumbashi. Omar Kigalo, bonjour. Et quelle est votre question?
Monsieur Joudi, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour.
Merci beaucoup, Monsieur Joudi. L'opération Panthère, nous la saluons, car c'est une solution urgente et nécessaire. Mais mes questions sont les suivantes. Premièrement, Monsieur Norbert Yambayamba, ne pensez-vous pas que c'est imprudent et inconvénient d'énoncer des stratégies sécuritaires en public? Je sais qu'en matière de défense, on peut annoncer les résultats, mais quand vous parlez des stratégies, on approchera la population. Ce n'est pas déjà dévoiler votre technique à l'ennemi qui risque de changer de stratégie. Donc, je pense prochainement limiter vos résultats, car en matière criminelle, on ne publie pas le stratégie. Deuxième mise au point, deuxième question. Monsieur Yambayamba, je vous reconnais panafricaniste, je vous apprécie beaucoup. Vous avez toujours dit dans vos émissions que le rôle de l'État, c'est de garantir l'ordre public. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous commencez par reconnaître votre échec? Durant ces quinquennats, votre ministère a été incapable de mettre la paix et l'ordre public d'abord à Kinshasa, parce qu'on vit les coulisses tous les jours. Il y a même une branche armée du parti au sein duquel appartient le ministre qui s'appelle Force du Progrès. Ces gens opèrent la journée, ils sont bien identifiés. La fois passée, on a assisté à un combat au niveau des Capella entre les Forces du Progrès de Yolo et de Limité, aussi au vide des autorités. Est-ce que vous pouvez reconnaître par votre échec et faire mieux prochainement? Vous êtes panafricaniste et non politique tel que je vous connais. Troisième solution, Monsieur Joly, troisième question. Monsieur Yambayamba et beaucoup d'auditeurs ont parlé de la pauvreté comme cause de banditisme urbain. Mais je pense que l'efficacité des résultats dépend de la manière dont on aborde les problèmes. Au-delà de la pauvreté, il y a une cause fondamentale qu'on néglige. C'est l'injustice distributive et l'injustice à l'accès aux fonctions publiques. Comment voulez-vous que les jeunes soient à l'aise s'ils voient des gens qui ont travaillé avec Mobutu continuer à travailler jusqu'à aujourd'hui? Lorsque le crime est parfait, ça énerve et ça frustre. Il faut aussi tenir compte de cela parce que vous avez dit que c'est une solution structurelle. On est fatigué de voir le même genre s'enrichir et d'autres ne pas s'enrichir. Il y a un criminologiste qu'on appelle les crimes pseudo-justiciers. Il y a des gens qui s'évertuent à commettre les crimes, pas pour faire du mal, mais pour établir l'équilibre social. Pensez aussi à cela. Donnez la place à tout le monde pour que cessent les frustrations. Deuxième chose, il y a aussi un problème sérieux du manque de professionnalisme au niveau des policiers. Moi, j'ai vécu beaucoup de quartiers, Barumbu, Gombe, Kine. Aujourd'hui, je suis à Kasavubu. Ces policiers des soucis de travail avec ces criminels. On les voit même fumer des chambres ensemble. Pourquoi vous ne pouvez pas, lorsque vous faites la stratégie nouvelle, changer? Moi, je vous propose changer dans chaque société un nouveau chef, de nouveaux éléments. Vous ne pouvez pas travailler avec des nouvelles méthodes, avec des personnes archaïques. Ça ne marchera pas. Ils se connaissent, ils travaillent ensemble, ils se partagent le butin. Troisième chose, il y a aussi une cause qu'on appelle les conditions inhumaines dans lesquelles travaillent les policiers. On dit en philosophie, il n'y a pas de vertus, ça les minimum de bien-être. Ces policiers sont très mal payés. Ils n'ont pas de véhicules de secours, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas un salaire décent, ils ont des tenues déchiquetées. Comment voulez-vous, même si les méthodes sont bonnes, même si la stratégie que vous énoncez est bien élaborée, que les éléments centraux qui doivent les mettre en application ne soient pas bien payés? Pensez aussi à cela, parce qu'on parle d'une mesure structurelle qui n'est pas ponctuelle.
Merci, Maître Omar Kigalo.
Donc, ce sont là mes propositions.
D'accord.
Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Célestin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité qui est au studio de la radio.
Quelle est votre question par rapport à l'opération Panthère Noire contre les gangs?
Vraiment, moi j'ai une question telle que comment l'invité doit mettre en place cette opération Panthère? Est-ce qu'il doit faire d'une façon à ce que cette opération soit permanente? Parce que nous remarquons aussi dans notre ville de Kananga, dans la province de Kassa Centrale, dans les cinq communes, surtout la commune de Landécha. Parce que là, c'est une commune qui doit être prête avec les grands marchés. Un jour, j'étais parti là, et je me suis retrouvé avec un monsieur là, donc je vais dire un Kuluna. Parce que chez nous là, on appelle les Chegui. Alors, j'ai parlé même à un agent de sécurité, et cet agent là, craignait de Kuluna. Maintenant, moi, la question est que, comment est-ce que l'invité peut instruire le ministre de l'Intérieur pourvu que cette opération soit toujours permanente? ce n'est pas seulement une opération qui doit être temporaire.
Merci, hein? Merci. Vous voulez savoir si elle sera permanente ou c'est juste pour quelque temps, cette opération Panthère Noire. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour, le salle invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre question par rapport à l'opération Panthère Noire?
En tout cas, nous la saluons, cette opération-là, toutes les stratégies mises en marche pour essayer quand même de restaurer la paix ici chez nous. En tout cas, moi, je considère que c'est comme si c'était tous les ingrédients que maman a achetés afin que la sauce soit bonne et appréciable. Mais malheureusement, on ne sait pas. D'abord, est-ce que cette fois-ci, pour arriver quand même à encourager aussi la population. La population, nous vivons avec les Koulouna. Si la population elle est aussi motivée, moi je pense que cette fois-ci, ça sera un pas gagné. Alors, je ne sais pas si on a aussi amélioré les différentes critiques d'autrefois là pour qu'on arrivait à arrêter les innocents. Je ne sais pas si cette fois-ci, on a essayé quand même d'améliorer et les mettre en prison. Moi, je pense que c'est perdre le temps. Il a fallu qu'il soit initié à des travaux forcés. Prenons les cas de notre chef Congo. Ils sont là. En tout cas, il n'y a pas de ferme de la part du gouvernement. Si nous les comparons avec les 16 000, en tout cas, ici chez nous, c'est la honte. Alors, au lieu de les conserver en prison et par après, il y aura des évasions du jour au lendemain. Moi, je pense qu'il a fallu qu'il soit orienté à des travaux forcés pour essayer un peu de trouver une situation fantastique. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire.
Merci, merci. On va accueillir Jean Makila de Bukavu. Bonjour. Bonjour, Jean Makila.
Jean. Bonjour, monsieur Jobi.
Oui, quelle est votre question?
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Bonjour. Bonjour, M. Jobi.
Oui, bonjour, on vous écoute, Jean. Allez-y, vous avez la parole.
Moi, je voulais d'abord savoir par rapport à ce qui concerne le groupe là de... Oui, je dis par rapport à ce qui concerne le groupe là de Bandi. Je voulais intervenir par rapport à ce qui concerne le groupe là des bandits de Koulouna.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je voulais juste dire que quelles sont donc quelles sont les mesures déjà prises par le gouvernement congolais contre ce groupe là des frères de Koulouna? Parce que moi je suis étonné de voir un groupe de bandits là qui se développe dans la capitale congolaise. Et moi, à mon avis, je vois que un jour ce groupe là donc ce groupe-là sera un groupe-là de bandits.
D'accord, merci beaucoup pour votre...
Ça sera
d'accord. Merci Jean Makila. Professeur Norbert Yamba, vous avez suivi toutes les préoccupations, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais quand même remercier nos compatriotes qui sont très intéressés par rapport à ces questions de sécurité dans notre pays. Mais je note deux choses. La première, c'est de savoir quelle est l'étendue de notre pays. Nous avons 2 345 000 km, 409 km². Nous avons 145 territoires et la moyenne d'un territoire, c'est tout un pays. C'est tout un pays. Prenez la République du Rwanda, c'est 100 fois. Moins que le Congo, 100 fois. Vous prenez par exemple la République Sao Tomé-Principe, c'est 2000 fois moins que le Congo. La Belgique, c'est 80 fois. La France, c'est 4 fois et demi. Donc nous sommes un sous-continent. Nous sommes un sous-continent. Mais nous avons dans ce sous-continent à peu près 110 millions de personnes. Nous n'avons pas d'industrie, en tout cas, tout s'est désagrégé depuis l'indépendance, etc. Nous n'avons pas, j'allais dire, des industries non seulement d'extraction, mais de transformation. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est à peine que le président Tshisekedi venait de se battre, Mordicus, pour avoir 16 milliards de dollars. Ça sont des moyens et statistiques. Alors, couvrir l'ensemble du territoire national avec des mécanismes qui exigent qu'une police professionnelle, encore qu'il faut une formation correspondante, certainement que les choses se passent et on est en train véritablement de former, mais il faut encore davantage avoir autant de policiers. Il faut le recruter, il faut le payer, il faut les équiper, il faut avoir des moyens de mobilité, etc. C'est tout un problème. Non seulement la police, mais il y a d'autres services de sécurité qui doivent donner l'information, les services de renseignement, les services, la DGM et compagnie, etc. Il faut des attributs de pouvoir, ce qu'on appelle des bâtiments, etc., des sociétés, compagnie. Tout cela exige véritablement des moyens. Et que les moyens étant limités, simplement parce que notre budget il est relativement maigrichant, on n'est pas en mesure de pouvoir entretenir tout de suite les 110 millions de personnes. Et c'est comme ça que, entre-temps, les écoles forment, entre-temps, les écoles produisent des diplômés, etc. Et donc, nous avons là toute une armée de chômeurs de luxe sur le marché qui n'ont rien à faire. Et donc, ils sont tentés à poser même des actes contrôlés. Non seulement on est incapable de travailler dans la perspective d'aider les enfants depuis le jeune âge, parce que beaucoup de parents ont démissionné, mais ce qui termine deviennent également des éléments étrangers, encore qu'ils sont suffisamment informés. Et ils posent des actes incontrôlés. Raison pour laquelle le gouvernement de la République, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, arrive, il dit la première chose, il faut créer des emplois. Et quelqu'un l'avait dit, et pas le besoin de le répéter. Créer des emplois suppose avoir des entrepreneurs dans un pays. Mais il faut des entrepreneurs nationaux, autochtones, etc. Et le président dit, voilà, j'encourage par exemple le secteur de ce qu'on fait généralement à Makutano, etc. Mais je mets en place le fonds de garantie, ce qui est du reste aujourd'hui est en train d'être travaillé pour que finalement tous les projets bancables soient financés et que ces projets deviennent des unités de production et ces unités de production auront besoin d'un personnel, notamment les jeunes gens qui doivent être recrutés suivant leur spécialité. Ça, c'est la première chose qui a été faite. Deuxième chose, on vous dit, non, il faut un fonds de développement rural, ce qu'on a appelé autrefois la banque des crédits agricoles.
Professeur Norbert.
Les exploitants.
Oui, professeur Norbert, on comprend bien ce que vous dites, mais pour les auditeurs, ils veulent connaître quand vous allez arrêter ces jeunes Kulunas qui inquiètent la population. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux après? Est-ce que vous allez seulement les envoyer en prison et après ils vont sortir? Ou bien, quels sont les résultats qu'on attend à l'issue de cette opération? Et quelqu'un a posé la question de savoir si l'opération Panthère Noire sera permanente ou c'est juste pour quelques temps.
Vous savez, mon frère, je vous ai dit dans un premier temps ici, à mon introduction, que la question de lutte contre le banditisme ou la criminalité, c'est une question complexe, ce n'est pas une question simple. La complexité pose la problématique de plusieurs facteurs qui interviennent et qui entrent en ligne de compte. Et ces facteurs-là doivent être tenus en compte dans la recherche des alternatives, dans la recherche des solutions. Et c'est pourquoi le gouvernement de la République, qui est en train véritablement de travailler, travaille du côté des gens qui doivent trouver du travail, et c'est comme ça que je vous parlais qu'il y a un fonds qui est disponible et qui, aujourd'hui, crée une pépinière d'entreprises, et ces entreprises vont recruter des gens. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, la police elle-même, il faut recruter. Le conseil des ministres avait décidé, il n'y a pas longtemps, qu'on puisse encore recruter 40 000, etc. Il faut leur donner la formation, il faut les équiper, etc. Troisièmement, il faut des centres de réinsertion, de réintégration, de socialisation, pour que chacun devienne autonome, responsable de sa vie. Et ces centres, on l'a cité, un exemple, Kanyamakassese. On ne s'arrêtera pas à Kanyamakassese. Il faut que ça se fasse sur l'ensemble du territoire national. Mais au-delà de cela, il y a la loi. Il y a ce qu'on appelle l'infraction de droit commun. Si quelqu'un pose des actes incontrôlés, imaginez-vous qu'un criminel qui entre, qui tue, qu'est-ce qui est prévu par la loi? Ce n'est pas le centre de Kanyamakassese. Ce n'est pas le centre de Kanyamakassese. Lorsque vous tuez, il y a des sanctions, il y a un barème de sanctions qui est prévu par rapport à ça. Et soit on vous amène en prison. Au finish, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? Si la personne est amenée en prison, il va naturellement épuiser toutes les sanctions requises. Mais il y a aussi des jeunes gens qui posent parfois des actes incontrôlés et qui, vous sentez bien qu'à cause de leur situation, c'est là aussi peuvent être réintégrés, être resocialisés. La prison aussi, c'est aussi un centre de socialisation. Mais le problème pour nous, c'est quoi ? C'est que les prisons sont tellement limitées, la capacité d'accueil nécessite davantage qu'on puisse mettre de moyens pour construire, pour créer des espaces pour, de manière à permettre. La prison de Makala, vous savez, c'était construit pour combien de personnes ? Et aujourd'hui, on en a à combien de personnes ? C'est de tout ça. Et alors maintenant, la prison, au lieu d'être véritablement un centre de socialisation, devient aussi un centre où le délinquant pose parfois d'exactes...
Professeur Norbert, Maître Omar vous a proposé tout à l'heure, il dit que certains Koulouna sont des mèches avec les agents commis, les policiers dans les quartiers. D'après lui, il serait important de permuter...
Non, c'est...
Il est important de permuter ces éléments pour casser cette collaboration-là.
Tout à fait, et je prends en considération les propositions de Maître Omari. Je dois lui avouer que nous, à notre niveau, au ministère, nous avons déjà disposé pour que finalement on puisse procéder à des permutations selon les règles de l'art. C'est très important et ces limitations devront intervenir. Je voudrais justement dire à Maître Omar que la question de la pauvreté est une question principale. Principale simplement parce que ça pousse certainement les gens à poser des actes.
Oui. Un instant.
Et poser des actes.
Professeur, un instant, on va accueillir deux autres auditeurs qui attendent. Patty Mayimba de Bandonville et Richard Kachai de Kananga. Patty, bonjour.
Je dis Daniel. Papa, le professeur Norbert qui est avec vous au plateau, bonjour à lui aussi.
Oui, quelle est votre question ?
Ah oui, mais moi je trouve que ce que nous vivons aujourd'hui, la chance que nous avons, il faut que l'État pense d'abord à décentraliser l'administration. Donc on donne 650. Qu'on donne vraiment le plein pouvoir au chef de quartier.
Vous parlez de 650.
Oui, les chefs de quartier, ce sont eux qui vivent, nous sont à proximité de nous. Et on doit revoir bien cette notion-là, que les chefs de quartier soient bien équipés, que ça reconnaisse quand même ces gens-là. On reconnaît, parce que quand quelqu'un est payé, il sera quand même motivé. Mais de la manière dont on utilise nos chefs de quartier comme des chiens de chasse, alors ils sont dans les quartiers, ils sont dans les rues, ils sont bien connus.
Oui, ils sont bien identifiés.
Ils sont bien identifiés, les chefs de quartier n'en font pas cas parce que bon, ils sont utilisés comme des chiens de chasse. Hein. Ils amènent ces gens-là chez eux-là et prennent l'argent. Ils laissent encore ces gens-là. Bon, ils se trouvent unités et puis ils ne sont même pas sécurisés, les chefs de quartier, ils ne sont pas sécurisés. Bon, c'est un point. Maintenant, monsieur le professeur, j'aimerais un peu qu'il me réponde. Est-ce qu'il connaît les forces du progrès de l'IDFS ? Il connaît ces gens-là ? J'aimerais un peu qu'il me donne la réponse. Parce que nous voyons ces gens-là, ce qu'ils font, ce que ces gens-là font. Ce côté-là, j'ai toujours entendu le professeur dans plusieurs de ses interventions, il relativise ça, donc il cherche à normaliser. J'aimerais qu'il me réponde. Est-ce que Yandi Mezaba, ma force du progrès?
Merci beaucoup, Patty de Mayimba de Bandonville. Richard Kachai de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à monsieur le professeur.
Kachai, quelle est votre question?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Monsieur Jody, le phénomène Koulouna, c'est un phénomène qui date de longtemps. Lorsque Tshisekedi a pris la résolution de créer des emplois et de former ces gens-là, alors cela avait bien commencé en 2019. On pensait que c'était une solution. Mais à Kanyoka, nous avons des Koulouna. Des Koulouna qui sont venus là, monsieur Jody, pour faire des champs. Mais nous sommes alors dans l'insécurité. Au village, nécessairement, les gens ne vivent pas de l'insécurité. Mais déjà à Kanyoka, nous vivons de l'insécurité à cause de la présence des Koulouna venus de Kinshasa. Monsieur Jody, alors, parce qu'on veut que la police puisse commencer à traquer ces colonnes-là. Mais c'est un marché ouvert aux policiers pour qu'ils sachent comment s'enrichir encore davantage. Parce que les colonnes vont devenir leur chaîne de chasse. C'est pourquoi moi je voulais demander à monsieur le professeur, non seulement qu'ils font des chants, mais aussi ils se marient gratuitement. Ils prennent des femmes, des filles du village sans verser la dot. Il y en a qui ont même déjà deux enfants, trois enfants avec ces filles-là. Et ils entrent dans des maisons, ils volent, ils violent, ils tuent. Surtout ici à Kanyuka. Je parle du cas particulier de Kanyuka, le village dans lequel je vis et je vous appelle, je vous parle. Alors, quelles sont les stratégies pouvant être mises en place nécessairement pour faire en sorte que les Kuluna soient transformés en civils réfléchis?
Bien, merci. Merci. Voilà. D'accord. Comment les transformer en bons citoyens, voilà, utiles à la société. Professeur Norbert, vous avez la parole. Quelqu'un est revenu sur les forces de progrès. Est-ce qu'ils sont également assimilés aux Kuluna? Est-ce que vous allez également s'occuper de ces jeunes gens appelés forces de progrès? Professeur Norbert.
Merci beaucoup. La question de Kuluna, c'est une question de société. Et je souhaiterais que nous ayons moins d'émotions toxiques pour que finalement on cherche des solutions utiles. J'ai beaucoup aimé l'intervention du maître qui a non seulement décrit la situation, mais également proposé un certain nombre de solutions. Je voudrais également rappeler que ne considérons pas les douleurs d'enfantement comme étant une politique délibérée du gouvernement. Certainement que la complexité des problèmes pousse à des actes parfois incontrôlés qui deviennent des douleurs d'enfantement. Mais ce n'est pas le fait que ces douleurs d'enfantement existent que l'on puisse dire que le gouvernement ne fait rien. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont en train d'être faites et que nous tenons mordicus à les réaliser. Quelqu'un disait qu'il faut décentraliser. Certainement que vous avez raison. La politique gouvernementale au travers le ministère sectoriel qui est la vice-primature de l'intérêt sécuritaire fait coutumier aujourd'hui a mis en place de particularités innovantes qui portent sur la gouvernance sécuritaire. La gouvernance sécuritaire suppose que hier c'était la responsabilité essentiellement des services de sécurité. Aujourd'hui, au lieu que les services de sécurité qui à des moments ont démontré leurs limites, que les choses se fassent essentiellement avec ces services de sécurité, on travaille avec la population, la complicité de la population, circuler l'information, dénonciation, contrôle par rapport à ce qui se fait, etc. Et cette gouvernance sécuritaire s'est répartie à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau central, où on trouve les services de sécurité avec tous ces services-là et les corps intermédiaires qui sont des organisations spécialisées de la société civile qui travaillent avec le gouvernement. Et au niveau provincial, le gouverneur de province, tous les services de sécurité avec la population représentée par des corps intermédiaires spécialisés. Mutatis, au niveau des communes, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies, etc. Et donc, la décentralisation, elle est fondamentalement prise en compte. Il y a tout un décret du Premier ministre par rapport à la question et les mesures même d'application venaient d'être prises. Il reste simplement la finalisation, n'est-ce pas, de ces processus pour que finalement ça se cristallise et que ça construise une sorte d'ancrage institutionnel.
Professeur, alors...
Soyez rassuré.
Oui. Professeur Norbert...
Est-ce que je termine?
Oui, allez-y.
Oui. Je disais qu'en fait... la tendance aujourd'hui, c'est que les chefs des quartiers seront pris en compte, même si le quartier n'aura pas une autonomie. Le quartier va travailler pour être en relation avec les chefs des riz et ils auront l'information parcelle par parcelle. Et c'est cette information qui devra être donnée au niveau du conseil de sécurité communale. Et ce comité de sécurité communale devra responsabiliser, la police pour faire véritablement le travail. Est-ce que les forces de progrès, c'est Kuluna? Chers amis, certainement que, et je l'avais dit, vous avez besoin de le répéter, Il y a des douleurs d'enfantement, certes, mais est-ce que c'est pour autant dire qu'une force qui a existé près plus de 30 ans, et qui a travaillé pour démolir, déconstruire, déstructurer une dictature, puisse être considérée comme un groupe criminel? Certainement qu'à l'intérieur de ces forces, il y a des infiltrés qui posent des actes. Et vous avez toujours vu que lorsqu'il y a des actes qui sont posés, le gouvernement de la République, au travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a toujours pris des dispositions pour que finalement la police fasse leur travail. Et de temps en temps, on a toujours entendu, on a arrêté telle ou telle personne de force de progrès. Écoutez, dans chaque société, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a des gens aussi qui s'introduisent de manière malhonnête pour que finalement, ils puissent ternir l'image d'une force. Mais ça nous donne également la possibilité de comprendre bien, encore que les autorités de l'IDPS puissent justement se saisir de ces lamentations, ces alertes, pour que finalement l'ordre intervienne dans ce corps. Mais pour le gouvernement, la police est impersonnelle, il n'y a pas de couleur politique. Lorsque quelqu'un pose un acte incontrôlé, s'il est reconnu comme bandit, s'il est reconnu comme criminel, on met la main sur lui et il est aussi passible des sanctions telles que recommandées. Je voudrais, par rapport à la question, la troisième question, je crois que c'était la troisième question.
Ben, il y a eu beaucoup de questions. Il y a Kachai qui nous dit que là-bas à Kanyoka, dans le Kasaï central, les Kulunas venus de Kinshasa qui avaient fui l'opération un coup de poing sont en train de violer les femmes, tout ça, de voler, de tuer même. Et ils font des choses pas possibles là-bas. Est-ce que vous pensez également cette opération va s'étendre aussi sur l'ensemble du pays ou c'est particulièrement pour
oui,
Kinshasa?
Oui, mais c'est normal, mon frère. L'opération, c'est sur toute l'étendue de la République. Nous sommes en train de parler de Kandi Kinshasa. Vous arrivez en Bandaga, la même chose. Vous arrivez à Lubumbashi, à Kolwezi, à Mbujimayi, à Kabinda. C'est partout. Et la structuration, l'ancrage que nous mettons en place, l'ancrage institutionnel, ça se répercute à différents niveaux d'atterrissage. Ce qui se passe, par exemple, à Kanyoka, pour prendre cet exemple, etc. Certainement que nous avons dit que Kanyamaka CC reçoit des Kulunas qui sont dans une étape de reconversion, de réinsertion. Croyez-moi, il y a même dans la Bible, il y a ceux qui respectent les paroles, il y a ceux qui ne respectent pas. Si vous suivez les témoignages des jeunes gens qui ont été resocialisés à Kanyamaka CC, ils vous disent, voilà, ils ont découvert une autre planète, ils ont découvert une autre motivation, une autre passion, et qu'ils vont y rester travailler dans ces perspectives. Mais il y a aussi des gens qui sont incorrigibles, etc., qui fouillent là où ils peuvent véritablement devenir autonomes et qui cherchent des endroits où s'installer. Et pour le cas d'espèce, à Kanyoka, cela arrive. Mais à Kanyoka aussi, c'est une entité, c'est une agglomération administrative qui a des services de sécurité, qui a toute la population autour de ça qui peuvent identifier ces gens. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un prenne en mariage une fille et on sait bien que c'est un criminel? Pourquoi on n'a pas annoncé la nouvelle aux services de sécurité qui sont sur place?
Professeur Norbert Yamba, professeur, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement, au cours d'une autre émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de l'opération Panthère contre les Kulunas, les gangs dans les centres urbains de la RDC. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Que tout le monde soit patient, que tout le monde comprenne que le gouvernement est préoccupé et que le calme ne peut pas revenir du coup. Il faut monter des stratégies, il faut mettre en place un arsenal institutionnel.
Merci,
il faut
professeur.
Il faut des engagements, il
D'accord.
faut des moyens.
D'accord.
Et donc, tout cela faisant commune, oui. Montre que demain, ça sera beau.
Merci, à la prochaine.
Merci bien.